Chapitre 12. Rosembray, terre récemment achetée par le duc de Verneuil, avec la somme que lui donna sa part dans le milliard voté pour légitimer la vente des biens nationaux, est remarquable par un château d'une magnificence comparable à celle de Meynières et de Balleroy. On arrive à cet imposant et noble édifice par une immense allée de 4 rangs d'ormes séculaires, et l'on traverse une immense cour d'honneur en pente, comme celle de Versailles, à grilles magnifiques, à 2 pavillons de concierges et ornés de grands orangers dans leurs caisses. Sur la cour, le château présente, entre 2 corps de logis en retour, 2 rangs de 19 hautes croisées à cintres sculptés et à petits carreaux, séparées entre elles par une colonnade engagée et cannelée. Un entablement à balustres cache un toit à l'indienne d'où sortent des cheminées en pierre de taille masquées par des trophées d'armes. Rosembray, ayant été bâti sous Louis XIV par un fermier général nommé Cottin. Sur le parc, la façade se distingue de celle sur la cour par un avant-corps de 5 croisées à colonnes au-dessus duquel se voit un magnifique fronton. La famille de Marigny, à qui les biens de ce Cottin furent apportés par Mademoiselle Cottin, unique héritière de son père, y fit sculpter un lever de soleil par Coise Vaux. Au-dessous, 2 anges déroulent un ruban où se lit cette devise substituée à l'ancienne en l'honneur du grand roi. Sol nobis benignus. Le grand roi avait fait duc le marquis de Marigny, l'un de ses plus insignifiants favoris. Du perron à grands escaliers circulaires et à balustres, la vue s'étend sur un immense étang, long et large comme le grand canal de Versailles, et qui commence au bas d'une pelouse digne des boulingrins les plus britanniques, bordée de corbeilles où brillaient alors les fleurs de l'automne. De chaque côté, 2 jardins à la française étalent leurs carrés, leurs allées, leurs belles pages, écrites du plus majestueux style le nôtre. Ces 2 jardins sont encadrés dans toute leur longueur par une marge de bois d'environ 30 arpents, où sous Louis XV on a dessiné des parcs à l'anglaise. De la terrasse, la vue s'arrête au fond sur une forêt dépendant des Rosembray et contiguë à 2 forêts, l'une à l'étang, l'autre à la couronne, et il est difficile vraiment de trouver un plus beau paysage. L'arrivée de Modeste fit une certaine sensation dans l'avenue, où l'on aperçut d'une voiture à la livrée de France, accompagnée du grand écuyer, du colonel, de Canalis, de Labrière, tous à cheval, précédés d'un piqueur en grande livrée, suivi de 10 domestiques parmi lesquels on remarquait le mulâtre, le nègre et l'élégant Brisca du colonel pour les 2 femmes de chambre et les paquets. La voiture à 4 chevaux était menée par 2 tigres, mise avec une coquetterie ordonnée par le grand écuyer, souvent mieux servi que le roi. En entrant et voyant ce petit Versailles, Modeste, ébloui par la magnificence des grands seigneurs, pensa soudain à son entrevue avec les célèbres duchesses, et elle eut peur de paraître empruntée, provinciale ou parvenue. Elle perdit complètement la tête et se repentit d'avoir voulu cette partie de chasse. Quand la voiture eut arrêté, fort heureusement Modeste aperçut un vieillard en perruque blonde, frisé à petites boucles, dont la figure calme, pleine, lisse, offrait un sourire paternel et l'expression d'un enjouement monastique rendu presque digne par un regard à demi voilé. La duchesse, femme d'une haute dévotion, fille unique d'un premier président richissime et mort en 1800, sèche et droite, mère de 4 enfants, ressemblait à Madame Latournelle. Si l'imagination consent à embellir la notaresse de toutes les grâces d'un maintien vraiment abbatial. « Eh bonjour, chère Hortense !» dit Mademoiselle d'Hérouville, qui embrassa la duchesse avec toute la sympathie qui réunissait ces deux caractères hautains. Oh, laissez-moi vous présenter, ainsi qu'à notre cher duc, ce petit ange, mademoiselle de la Bastille. Oh, nous a tant parlé de vous, mademoiselle, dit la duchesse, que nous avons grand hâte de vous posséder ici. Regrettera le temps perdu, dit le duc de Verneuil, en inclinant la tête avec une galante admiration. Monsieur le comte de la Bastille, dit le grand écuyer, en prenant le colonel par le bras et le montrant au duc et à la duchesse, avec une teinte de respect dans son geste et sa parole. Le colonel salua la duchesse, le duc lui tendit la main. « Soyez le bienvenu, monsieur le comte, dit monsieur de Verneuil. Vous possédez bien des trésors, ajouta-t-il en regardant Modeste. » La duchesse prit Modeste par-dessous le bras et la conduisit dans un immense salon où se trouvaient groupées devant la cheminée une dizaine de femmes. Les hommes, emmenés par le duc, se promenèrent sur la terrasse, à l'exception de Canalis, qui se rendit respectueusement auprès de la superbe Éléonore. La duchesse, assise à un métier de tapisserie, donnait des conseils à mademoiselle de Verneuil pour nuancer. Modeste se serait traversé le doigt d'une aiguille en mettant la main sur une pelote. Elle n'aurait pas été si vivement atteinte qu'elle le fut par le coup d'œil glacial, hautain, méprisant, que lui jeta la duchesse de Chaulieu. Dans le premier moment, elle ne vit que cette femme, elle la devina. Pour savoir jusqu'où va la cruauté de ces charmants êtres que nous passions grandissent tant, il faut voir les femmes entre elles. Modeste aurait désarmé tout autre qu'Éléonore par sa stupide et involontaire admiration, car, sans sa connaissance de l'âge, elle eût cru voir une femme de 36 ans, mais elle était réservée à bien d'autres étonnements. Le poète se heurtait alors contre une colère de grande dame. Une pareille colère est le plus atroce des sphinx. Le visage est radieux, mais tout le reste est farouche. Les rois eux-mêmes ne savent comment faire capituler la politesse exquise de froideur qui cache une armure d'acier. La délicieuse tête de femme sourit, et en même temps l'acier mort, la main est d'acier, le bras, le corps, tout est d'acier. Canalis essayait de se cramponner à cet acier, mais ses doigts y glissaient comme ses paroles sur le cœur. Et la tête gracieuse et la phrase gracieuse et le maintien gracieux déguisaient à tous les regards l'acier de cette colère descendue à 25 degrés au-dessous de zéro. L'aspect de la sublime beauté de Modeste, embellie par le voyage, la vue de cette jeune fille, mise aussi bien que Diane de Maufrigneuse, avait enflammé les poudres amassées par la réflexion dans la tête d'Éléonore. Toutes les femmes étaient venues à une croisée pour voir descendre de voiture la merveille du jour, accompagnée de ses trois amants. « N'ayons pas l'air d'être si curieuse, » avait dit madame de Chaulieu, frappée au cœur par ce mot de Diane. « Elle est divine, mais d'où ça sort-il ? » Et elle s'était envolée au salon où chacune avait repris sa contenance et où la duchesse de Chaulieu se sentit dans le cœur mille vipères qui toutes demandaient à la fois leur pâture. Simplement, ah oui, 9:42. Mademoiselle d'Hérouville dit à voix basse à la duchesse de Verneuil et avec intention, « Éléonore reçoit bien mal son grand Melchior. » « Oh, la duchesse de Maufrigneuse croit qu'il y a du froid entre eux, » répondit Lord de Verneuil avec simplicité. « Oh, cette phrase, dite si souvent dans le monde, n'est-elle pas admirable ? On y sent la bise du pôle. »« Et pourquoi ?» demanda Modeste à cette charmante jeune fille sortie du Sacré-Cœur depuis 2 mois. « Mais le grand homme, » répondit la dévote duchesse, qui fit signe à sa fille de se taire, « et l'a laissée sans un mot pendant 15 jours, après son départ pour le Havre et après lui avoir dit qu'il y allait pour sa santé. » Modeste laissa échapper un mouvement qui frappa alors Hélène et mademoiselle d'Hérouville. « Et pendant ce temps, » disait la dévote duchesse en continuant, et le faisait nommer commandeur et ministre à Baden. Oh, mais c'est mal à Canalis, car lui doit tout, dit mademoiselle d'Orteville. Mais pourquoi madame de Chaulieu n'est-elle pas venue au Havre? Demanda naïvement Modeste à Hélène. Ma petite, dit la duchesse de Verneuil, elle se laisserait bien assassiner sans proférer une parole. Regardez-la, quelle reine! Sa tête sur un billot sourirait encore comme fit Marie Histoire. Et notre belle Éléonore a d'ailleurs de ce sang dans les veines. Elle ne lui a pas écrit, reprit Modeste. Diane, répondit la duchesse, encouragée à ses confidences par un coup de coude de mademoiselle d'Hérouville. Diane m'a dit qu'elle avait fait la première lettre que Canalis lui a écrite il y a 10 jours environ, une bien sanglante réponse. Cette explication fit rougir Modeste de honte pour Canalis. Elle souhaita non pas l'écraser sous ses pieds, mais se venger par une de ces malices plus cruelles que des coups de poignard. Elle regarda fièrement la duchesse de Chaulieu. Ce fut un regard doré par 8 millions. « Monsieur Melchior, dit-elle. » Toutes les femmes levèrent le nez et jetèrent les yeux alternativement sur la duchesse qui causait à voix basse son métier avec Canalis et sur cette jeune fille assez mal élevée pour troubler deux amants aux prises, ce qui ne se fait dans aucun monde. Diane de Maufrigneuse hocha la tête en ayant l'air de dire « Pouf, l'enfant est dans son droit ». Les 12 femmes finirent par sourire entre elles, car elles jalousaient toutes une femme de 56 ans, assez belle encore pour pouvoir puiser dans le trésor commun et y voler part de jeune Melchior. Regarda Modeste avec une impatience fébrile et par un geste de maître avalait, tandis que la duchesse baissa la tête par un mouvement de lionne dérangée pendant son festin. Mais ses yeux attachés au canevas jetèrent des flammes presque rouges sur le poète, en enfouillant le cœur à coups d'épigramme, chaque mot s'expliquait par une triple injure. « Monsieur Melchior, » répéta Modeste d'une voix qui avait le droit de se faire écouter. « Quoi, mademoiselle ?» demanda le poète. Obligé de se lever, il resta debout à mi-chemin du métier qui se trouvait auprès d'une fenêtre et de la cheminée près de laquelle Modeste était assise, sur le canapé de la duchesse de Verneuil. Quelle poignante réflexion ne fit pas cet ambitieux quand il reçut un regard fixe d'Éléonore. Obéir à Modeste, tout était fini sans retour entre le poète et sa protectrice. Et ne pas écouter la jeune fille, Canalis avouait son servage. Il annulait le profit de ses 25 jours de lâcheté. Il manquait aux plus simples lois de la civilité puérile et honnête. Plus la sottise était grosse, plus impérieusement la duchesse l'exigeait. La beauté et la fortune de Modeste, mises en regard de l'influence des droits d'Éléonore, rendirent cette hésitation entre l'homme et son honneur aussi terrible à voir que le péril d'un matador dans l'arène. Un homme ne trouve de palpitations semblables à celles qui pouvaient donner un anévrisme à Canalis que devant un tapis vert en voyant sa ruine ou sa fortune décidée en 5 minutes. Mademoiselle d'Hérouville m'a fait quitter si promptement la voiture que j'y ai laissé, et dit Modeste à Canalis, mon mouchoir. Canalis fit un haut-le-corps significatif. Et, dit Modeste en continuant, malgré ce geste d'impatience, « J'y ai noué la clé d'un portefeuille qui contient un fragment de lettre importante. Ayez la bonté, Melchior, de le faire demander. » Entre un ange et un tigre irrité, Canalis, devenu blême, n'hésita plus. Le tigre lui parut le moins dangereux. Il allait se prononcer lorsque la bruyère apparut à la porte de salon et lui sembla quelque chose comme l'archange Michel tombant du ciel. Ernest, tiens, mademoiselle de la Bastille a besoin de toi, dit le poète, qui regagna vivement sa chaise auprès du métier. Ernest, lui, courut à Modeste sans saluer personne. Il ne vit qu'elle, il en reçut cette commission avec un visible bonheur, et s'élança hors du salon avec l'approbation secrète de toutes les femmes. Quel métier pour un poète, dit Modeste à Hélène, en montrant la tapisserie à laquelle travaillait rageusement la duchesse.
Si tu lui parles, si tu la regardes une seule fois, tout est à jamais fini, disait à voix basse à Melchior et Léonore, que le mezzo termine d'Ernest n'avait pas satisfait.
Et songes-tu bien, quand je ne serai pas là, je laisserai des yeux qui t'observeront.
Sur ce mot, la duchesse, femme de taille moyenne, mais un peu trop grasse, comme le sont toutes les femmes de 50 ans passés qui restent belles, se leva, marcha vers le groupe où se trouvait Diane de Maufrigneuse, en avançant des pieds menus et nerveux comme ceux d'une biche. Sous sa rondeur se révélait l'exquise finesse dont sont douées ces sortes de femmes, et que leur donne la vigueur de leur système nerveux qui maîtrise et vivifie le développement de la chair. On ne pouvait pas expliquer autrement sa légère démarche, qui fut d'une noblesse incomparable. Il n'y a que les femmes dont les quartiers de noblesse commencent à Noé, comme Éléonore, qui savent être majestueuses, malgré leur embonpoint de fermière. Un philosophe est peut-être plein Philoxène, en admirant l'heureuse distribution du corsage et les soins minutieux d'une toilette du matin, portée avec une élégance de reine, avec une aisance de jeune personne. Audacieusement coiffée en cheveux abondants, sans teinture et nattée sur la tête en forme de tour, Éléonore montrait fièrement son cou de neige, sa poitrine et ses épaules d'un modelé délicieux, ses bras nus et éblouissants, terminés par des mains célèbres. Et Modeste, comme toutes les encadenistes de la duchesse, reconnut en elle une de ces femmes dont on dit « c'est notre maîtresse à toutes ». Et en effet, on reconnaissait en Éléonore une des quelques grandes dames devenues si rares maintenant en France. Et vouloir expliquer ce qu'il y a d'auguste dans le port de la tête, de fin, de délicat dans telle ou telle sinuosité du cou, d'harmonieux dans les mouvements, de digne dans un maintien, de noble dans l'accord parfait des détails et de l'ensemble, dans ces artifices devenus naturels qui rendent une femme sainte et grande, ce serait vouloir analyser le sublime. On jouit de cette poésie comme de celle de Paganini, sans s'en expliquer les moyens, car la cause est toujours l'âme qui se rend visible. La duchesse inclina la tête pour saluer Hélène et sa tante, puis elle dit à Diane d'une voix enjouée et pure, sans trace d'émotion, « N'est-il pas temps de nous habiller, duchesse ?» Et elle fit sa sortie, accompagnée de sa belle-fille et de Mademoiselle d'Hérouville, qui toutes deux lui donnèrent le bras. Elle part là-bas en s'en allant avec la vieille fille, qui la pressa sur son cœur en lui disant « Oh, vous êtes charmante !» Ce qui signifiait « Je suis tout à vous pour le service que vous venez de nous rendre. » Mademoiselle d'Hérouville rentra pour jouer son rôle d'espion et son premier regard apprit à Canalis que le dernier mot de la duchesse n'était pas une vaine menace. L'apprenti diplomate se trouva de trop petite science pour une si terrible lutte et son esprit lui servit du moins à se placer dans une situation franche, sinon digne. Quand Ernest reparut apportant le mouchoir à Modeste, il le prit par le bras et l'emmena sur la pelouse. « Mon cher ami, lui dit-il, je suis l'homme, oh non pas le plus malheureux, mais le plus ridicule du monde. Aussi ai-je recours à toi pour me tirer du guépier où je me suis fourré. Modeste est un démon. » Elle a vu mon embarras, elle en rit. Elle vient de me parler de deux lignes d'une lettre de Madame de Chaulieu que j'ai fait la sottise de lui confier. Si elle les montrait, jamais je ne pourrais me raccommoder avec Éléonore. Ainsi, demande immédiatement ce papier à Modeste et dis-lui de ma part que je n'ai sur elle aucune vue, aucune prétention. Mais je compte sur sa délicatesse, sur sa probité de jeune fille, pour se conduire avec moi comme si nous ne nous étions jamais vus. Je la prie de ne pas m'adresser la parole, je la supplie de m'accorder ses rigueurs,
sans oser réclamer de sa malice une espèce de colère jalouse qui servait à merveille mes intérêts. Allez, va, j'attends d'ici.
Ernest de la Bruyère aperçut, en entrant au salon, un jeune officier de la compagnie des gardes d'Avray, le vicomte de Sérisy, qui venait d'arriver de Rosny pour annoncer que madame était obligée de se trouver à l'ouverture de la session. On sait de quelle importance fut cette solennité constitutionnelle où Charles X prononça son discours, environné de toute sa famille, madame la dauphine et madame y assistant dans leur tribune. Le choix de l'ambassadeur, chargé d'exprimer les regrets de la princesse, était une attention pour Diane. On la disait alors adorée par ce charmant jeune homme, fils d'un ministre d'État, gentilhomme ordinaire de la Chambre, promis la haute destinée en la qualité de fils unique et d'héritier d'une immense fortune. La duchesse de Maufrigneuse ne soufflait les attentions du vicomte que pour bien mettre en lumière l'âge de madame de Sérisy, qui, selon la chronique publiée sous l'éventail, lui avait enlevé le cœur du beau Lucien de Rubempré. « Vous nous ferez, j'espère, le plaisir de rester à Rosembray, » dit la sévère duchesse au jeune officier. Tout en ouvrant l'oreille aux médisances, la dévote fermait les yeux sur les coquetteries de ses hôtes soigneusement appareillés par le duc, car on ne sait pas tout ce que tolèrent ces excellentes femmes sous prétexte de ramener au bercail par leur indulgence les brebis égarées. « Nous avons compté, dit le grand écuyer, sans notre gouvernement constitutionnel. Et Rosembray, madame la duchesse, y perd un grand honneur. « Nous n'en serons que plus à notre aise, dit un grand vieillard sec d'environ 75 ans, vêtu de drap bleu, gardant sa casquette de chasse sur la tête par permission des dames. Ce personnage, qui ressemblait beaucoup au duc de Bourbon, n'était rien moins que le prince de Cadignan, grand veneur, un des derniers grands seigneurs français. Au moment où la Bruyère essayait de passer derrière le canapé pour demander un moment d'entretien à Modeste, un homme de 38 ans, petit, gros et commun, entra.
« Mon fils, le prince de London, dit la duchesse de Verneuil à Modeste, qui ne put comprimer sur sa jeune physionomie une expression d'étonnement en voyant par qui était porté le nom que le général de la cavalerie vendéenne avait rendu si célèbre et par sa hardiesse et par le martyre de son supplice. Le duc de Verneuil actuel était un troisième fils, emmené par son père en émigration et le seul survivant de quatre enfants. « Gaspard !» dit la duchesse en appelant son fils près d'elle. Le jeune prince vint à l'ordre de sa mère, qui reprit en lui montrant Modeste. « Mademoiselle de la Bastille, mon ami, l'héritier présomptif, dont le mariage avec la fille unique de Desplein était arrangé, salua la jeune fille sans paraître, comme l'avait été son père, émerveillé de sa beauté. Modeste put alors comparer la jeunesse d'aujourd'hui à la vieillesse d'autrefois, car le vieux prince de Cadignan lui avait déjà dit deux ou trois mots charmants en lui prouvant ainsi qu'il rendait autant d'hommage à la femme qu'à la royauté. Le duc de Rhétoré, fils aîné de madame de Chaulieu, remarquable par ce ton qui réunit l'impertinence et le sans-gêne, avait, comme le prince de London, salué Modeste presque cavalièrement. La raison de ce contraste entre les fils et les pères vient peut-être de ce que les héritiers ne se sentent plus être de grandes choses comme leurs aïeux et se dispensent des charges de la puissance en se trouvant plus que l'ombre. Les pères ont encore la politesse inhérente à leur grandeur évanouie, comme ces sommets encore dorés par le soleil quand tout est dans les ténèbres alentour. Enfin, Ernest put glisser deux mots à Modeste qui se leva. « Ma petite belle, » dit la duchesse, en croyant que Modeste allait s'habiller et qui tira le cordon d'une sonnette, « on va vous conduire à votre appartement. » Ernest accompagna jusqu'au grand escalier Modeste en lui présentant la requête de l'infortuné Canalis Il essaya de la toucher en lui peignant les angoisses de Melchior. Il aime, voyez-vous, c'est un captif qui croyait pouvoir briser sa chaîne. De l'amour chez ce féroce calculateur, répliqua Modeste. Mademoiselle, vous êtes à l'entrée de la vie, vous n'en connaissez pas les défilés. Il faut pardonner toutes ces inconséquences à un homme qui se met sous la domination d'une femme plus âgée que lui, car il n'y est pour rien. Songez combien de sacrifices Canalis a faits à cette divinité. Maintenant, il a jeté trop de semailles pour dédaigner la moisson. La duchesse représente 10 ans de soins et de bonheur. Vous aviez fait tout oublier à ce poète qui, par malheur, a plus de vanité que d'orgueil. Il n'a su ce qu'il perdait qu'en revoyant Madame de Chaulieu. Si vous connaissiez Canalis, vous l'aideriez. C'est un enfant qui dérange à jamais sa vie. Oui, vous l'appelez un calculateur, mais il calcule bien mal, comme tous les poètes d'ailleurs, gens à sensation, pleins d'enfance, éblouis, comme les enfants par ce qui grille et courant après. Il a aimé les chevaux et les tableaux, il a chéri la gloire, il veut maintenant le pouvoir. Il vend ses toiles pour avoir des armures, des meubles de la Renaissance et de Louis XV. Convenez que ces hochets sont de grandes choses. « Assez, » dit Modeste. « Venez, » dit-elle en apercevant son père, qu'elle appela par un signe de tête pour avoir son bras, « je vais vous remettre les 2 lignes. Vous les porterez au grand homme en l'assurant d'une entière condescendance à ses désirs. Mais à une condition. Je veux que vous lui présentiez tous mes remerciements pour le plaisir que j'ai eu de voir jouer pour moi toute seule une des plus belles pièces du théâtre allemand. Je sais maintenant que le chef-d'œuvre de Goethe n'est ni Faust ni le comte d'Egmont. » Et comme Ernest regardait la malicieuse fille d'un air hébété, « C'est Torquato Tasso, » reprit-elle. « Dites à monsieur de Canalis qu'il la relise, » ajouta-t-elle en souriant. « Je tiens à ce que vous répétiez ceci, mot pour mot, à votre ami, car ce n'est pas une immense épigramme, mais la justification de sa conduite, à cette différence près, qui deviendra, je l'espère, très raisonnable, grâce à la folie d'Éléonore. » La première femme de la duchesse guida Modeste et son père vers leur appartement, où François Scotcher avait déjà tout mis en ordre, et dont l'élégance, la recherche étonnèrent le colonel, à qui Françoise apprit qu'il existait 30 appartements de maître dans ce goût au château. Voilà comme je conçois une terre, dit Modeste. Le comte de la Bastille te fera construire un château pareil, répondit le colonel. Tenez, monsieur, dit Modeste en donnant le petit papier à Ernest, allez rassurer votre ami. Ce mot « notre ami » frappa le référendaire. Il regarda Modeste pour savoir s'il y avait quelque chose de sérieux dans la communauté de sentiments qu'elle paraissait accepter. Et la jeune fille, comprenant cette interrogation, lui dit « Et allez donc, votre ami attend. » La Bruyère rougit excessivement et sortit dans un état de doute, d'anxiété, de trouble, plus cruel que le désespoir. Les approches du bonheur sont pour les vrais amants comparables à ce que la poésie catholique a si bien nommé l'entrée du paradis pour exprimer un lieu ténébreux, difficile, étroit, et où retentissent les derniers cris d'une suprême angoisse. 1 heure après, l'illustre compagnie était réunie et au grand complet dans le salon, les uns jouant au whist, les autres causant, les femmes occupées à de menus ouvrages, en attendant l'annonce du dîner. Le grand veneur fit parler M. Mignon sur la Chine, sur ses campagnes, sur les Partenduère, les Estorades, les Maucombes, famille provençale. Il lui reprocha de ne pas demander au service en l'assurant que rien n'était plus facile que de l'employer dans son grade de colonel et dans la garde. Un homme de votre naissance et de votre fortune n'épouse pas les opinions de l'opposition actuelle, dit le prince en souriant. Cette société d'élite non seulement plut à Modeste, mais elle y devait acquérir, pendant son séjour, une perfection de manière qui, sans cette révélation, lui aurait manqué toute sa vie. Montrer une horloge à un mécanicien en herbe, ce sera toujours lui révéler la mécanique en entier. Il développe aussitôt les germes qui dorment en lui. De même, Modeste sut s'approprier, tout ce qui distinguait les duchesses de Maufrigneuse et de Chaulieu. Tout pour elle fut enseignement, là où des bourgeoises n'auraient remporté que des ridicules à l'imitation de ses façons. Une jeune fille bien née, instruite et disposée comme Modeste, se mit naturellement à l'unisson et découvrit les différences qui séparent le monde aristocratique du monde bourgeois, la province du Faubourg Saint-Germain. Elle saisit ces nuances presque insaisissables. Elle reconnut enfin la grâce de la grande dame sans désespérer de l'acquérir. Elle trouva son père et la Brière infiniment mieux que Canalis au sein de cet Olympe. Le grand poète, abdiquant sa vraie et incontestable puissance, celle de l'esprit, ne fut plus qu'un maître des requêtes, voulant un poste de ministre, poursuivant le collier de commandeur, obligé de plaire à toutes ses constellations. Ernest de la Brière, sans ambition, restait lui-même, tandis que Melchior, devenu petit garçon, pour se servir d'une expression vulgaire, courtisait le prince de Londres. Le duc de Rhétoré, le vicomte de Sérisy, le duc de Maufrigneuse, un homme qui n'avait pas son franc-parler comme le colonel Mignon, comte de la Bastille, fier de ses services et de l'estime de l'empereur Napoléon. Modeste remarqua la préoccupation continuelle de l'homme d'esprit, cherchant une pointe pour faire rire, un bon mot pour étonner, un compliment pour flatter, ces hautes puissances parmi lesquelles Melchior voulait se maintenir. Enfin là, ce paon se dépluma. Au milieu de la soirée, Modeste alla s'asseoir avec le grand écuyer dans un coin du salon. Elle l'avait emmené là pour terminer une lutte qu'elle ne pouvait plus encourager sans se mésestimer elle-même. « Monsieur le duc, si vous me connaissiez, lui dit-elle, vous sauriez combien je suis touchée de vos soins. Précisément, à cause de la profonde estime que j'ai conçue pour votre caractère, de l'amitié qu'inspire une âme comme la vôtre, je ne voudrais pas porter la plus légère atteinte à votre amour-propre. Avant votre arrivée au Havre, j'aimais sincèrement, profondément et à jamais une personne digne d'être aimée et pour qui mon affection est encore un secret, mais sachez, et ici je suis plus sincère que ne sont les jeunes filles, que s'il n'avait pas eu cet engagement volontaire, vous eussiez été choisi par moi, tant j'ai reconnu de nobles et belles qualités en vous. Les quelques mots échappés à votre sœur et à votre tante m'obligent à vous parler ainsi. Si vous le jugez nécessaire, demain, avant le départ pour la chasse, ma mère n'aura, par un message, rappelé à elle sous prétexte d'une indisposition grave. Je ne veux pas, sans votre consentement, assister à une fête préparée par vos soins, et où mon secret, s'il m'échappait, vous peinerait en froissant vos légitimes prétentions. Pourquoi suis-je venu ici, me direz-vous? Je pouvais ne pas accepter. Soyez assez généreux pour ne pas me faire un crime d'une curiosité nécessaire. Oh, ceci n'est pas ce que j'ai de plus délicat à vous dire. Vous avez, dans mon père et moi, des amis plus solides que vous ne le croyez. Et comme la fortune a été le premier mobile de vos pensées quand vous êtes venu à moi, sans vouloir me servir de ceci comme d'un calmant au chagrin que vous devez galamment témoigner. Apprenez que mon père s'occupe de l'affaire d'Hérouville. Son ami Dumay la trouve faisable. Il a déjà tenté des démarches pour former une compagnie. Gobenheim, Dumay, mon père, offre 1 500 000 francs et a se charge de réunir le reste par la confiance qu'ils inspirent aux capitalistes en prenant dans l'affaire cet intérêt sérieux. Si je n'ai pas l'honneur d'être la duchesse d'Hérouville, j'ai la presque certitude de vous mettre à même de la choisir un jour en toute liberté, dans la haute sphère où elle est. « Oh, laissez-moi finir, » dit-elle à un geste du duc. « À l'émotion de mon frère, » disait Mademoiselle d'Hérouville à sa nièce, « il est facile de juger que tu as une sœur. Monsieur le duc, ceci fut décidé par moi, le jour de notre première promenade à cheval, en vous entendant déplorer votre situation. Voilà ce que je voulais vous révéler. Ce jour-là, mon sort fut fixé. Si vous n'avez pas conquis une femme, vous aurez trouvé des amis à Ingouville, si toutefois vous daignez nous accepter à ce titre. » Ce petit discours, médité par Modeste, fut dit avec un tel charme d'âme que les larmes vinrent aux yeux du grand écuyer, qui saisit la main de Modeste et la baisa. « Restez ici pendant la chasse, » répondit le duc d'Hérouville. « Mon peu de mérite m'a donné l'habitude de ces refus, mais tout en acceptant votre amitié et celle du colonel, laissez-moi m'assurer auprès des hommes d'art les plus compétents que le dessèchement des laisses d'Hérouville ne fait courir aucun risque et peut donner des bénéfices à la compagnie dont vous me parlez avant que j'agrée le dévouement de vos amis. Vous êtes une noble fille, et quoi qu'il soit navrant de n'être que votre ami, je me glorifierai de ce titre, et vous le prouverez toujours en temps et lieu. » Et dans tous les cas, monsieur le duc, gardons-nous le secret. Oh, me sera mon choix, si toutefois je ne m'abuse pas, qu'après l'entière guérison de ma mère, car je veux que mon futur et moi, nous soyons bénis de ses premiers regards. « Mesdames, dit le prince de Cadignan au moment d'aller se coucher, il m'est revenu que plusieurs d'entre vous avaient l'intention de chasser demain avec nous. Or, je crois de mon devoir de vous avertir que si vous tenez à faire les dianes, vous aurez à vous lever à la diane, c'est-à-dire au jour. Le rendez-vous est pour 8h30. J'ai vu dans le cours de ma vie les femmes déployant plus de courage souvent que les hommes, mais pendant quelques instants seulement, et il vous faudrait à toute une certaine dose d'entêtement pour rester pendant toute une journée à cheval, hormis la halte que nous ferons pour déjeuner, en vrais chasseurs et chasseresses sur le pouce. Êtes-vous bien toujours dans l'intention de vous montrer écuyère finie ?»« Prince, moi j'y suis obligé, » répondit finement Modeste. « Je réponds de moi, » dit la duchesse de Chaulieu. « Je connais ma fille Diane, elle est digne de son nom, » répliqua le prince. « Ainsi, vous voilà toute piquée au jeu. Oh, néanmoins, je ferai en sorte, pour Mademoiselle de Verneuil et les personnes qui resteront ici, de forcer le cerf au bout de l'étang. » Rassurez-vous, mesdames, le déjeuner sur le pouce aura lieu sous une magnifique tente, » dit le prince de Loudon, quand le grand veneur eut quitté le salon. Le lendemain, au petit jour, tout présageait une belle journée. Le ciel, voilé d'une légère vapeur grise, laissait apercevoir par des espaces clairs un bleu pur, et il devait être entièrement nettoyé vers midi par une brise de nord-ouest qui balayait déjà de petits nuages floconneux. En quittant le château, le grand veneur, le prince de Loudon et le duc de Rhétoré, qui n'avaient point de dames à protéger, virent, en allant les premiers au rendez-vous, les cheminées du château, ces masses blanches, se dessinant sur le feuillage brun-rouge que les arbres conservent en Normandie à la fin des beaux automnes, et pointant à travers la voile de vapeur. « Mais ces dames ont du bonheur, » dit au prince le duc de Rhétoré. « Malgré leur fanfaronnade d'hier, oh, je crois qu'elles nous laisseront chasser sans elles, » répondit le grand veneur. « Oui, s'il n'avait pas tout un attentif, » répliqua le duc. En ce moment, ces chasseurs déterminés, car le prince de Loudon et le duc de Rhétoré sont de la race des Nemrod et passent pour les premiers tireurs du faubourg Saint-Germain, entendirent le bruit d'une altercation et se rendirent au galop vers le rond-point indiqué pour le rendez-vous à l'une des entrées du bois de Rosembray et remarquable par sa pyramide moussue. Voici quel était le sujet du débat. Le prince de Loudon, atteint d'anglomanie, avait mis aux ordres du grand veneur un équipage de chasse entièrement britannique. Or, d'un côté du rond-point, vint se placer un jeune Anglais de petite taille, blond, pâle, l'air insolent et flegmatique, parlant à peu près le français, et dont le costume offrait cette propreté qui distingue tous les Anglais, même ceux des dernières classes. John Barry portait une redingote courte, serrée à la taille, en drap écarlate à boutons d'argent, aux armes de Verneuil, des culottes de peau blanche, des bottes à revers, un gilet rayé, un col et une cape de velours noir. Il tenait à la main un petit fouet de chasse, et l'on voyait à sa gauche, attaché par un cordon de soie, un cornet en cuivre. Ce premier piqueur était accompagné de deux grands chiens courants de race, véritables foxhounds à robe blanche, tachetée de brun clair, haut sur jarret, au nez fin, la tête menue et à petites oreilles sur la crête. Ce piqueur, l'un des plus célèbres du comté d'où le prince l'avait fait venir à grands frais, commandait un équipage de 15 chevaux et de 60 chiens de race anglaise qui coûtait énormément au duc de Verneuil, peu curieux de chasse, mais qui passait à son fils ce goût essentiellement royal. Les subordonnés, hommes et chevaux, se tenaient à une certaine distance, dans un silence parfait. Or, en arrivant sur le terrain, John se vit prévenu par trois piqueurs de tête de deux meutes royales venues en voiture, les trois meilleurs piqueurs du prince de Cadignan et dont les personnages formaient un contraste parfait par leur caractère et leur costume français avec le représentant de l'insolente Albion. Ces favoris du prince, tous coiffés de leurs chapeaux bordés à trois cornes très plats, très évasés, sous lesquels grimaçaient des figures hâlées, tannées, ridées et comme éclairées par des yeux pétillants, étaient remarquablement secs, maigres, nerveux, en gens dévorés par la passion de la chasse. Tous munis de ces grandes trompes à la dampierre, garnies de cordons en serge verte qui ne laissent voir que le cuivre du pavillon, ils contenaient leurs chiens et de l'œil et de la voix. Ces dignes bêtes formaient une assemblée de sujets plus fidèles que ceux à qui s'adressait alors le roi, tous tachetés de blanc, de brun, de noir, ayant chacun leur physionomie absolument comme les soldats de Napoléon, allumant au moindre bruit leurs prunelles d'un feu qui les faisait ressembler à des diamants. L'un venu du Poitou, court de reins, large d'épaules, bas jointé, coiffé de longues oreilles, l'autre venu d'Angleterre, blanc, levretté, peu de ventre, à petites oreilles et taillé pour la course, tous les jeunes impatients et prêts à tapager, tandis que les vieux, marqués de cicatrices, étendus, calmes, la tête sur les deux pattes de devant, écoutaient la terre comme des sauvages. En voyant venir les Anglais, les chiens et les gens du roi s'entre-regardèrent en se demandant ainsi, sans dire un mot, « Ah, mais ne chassons-nous donc pas seuls ? Le service de sa majesté n'est-il pas compromis ?» Après avoir commencé par des plaisanteries, la dispute s'était échauffée entre M. Jacquin Laroulli, le vieux chef des piqueurs français, et John Burley, le jeune insulaire. De loin, les deux princes devinèrent le sujet de cette affectation, et, poussant son cheval, le grand veneur fit tout finir en disant d'une voix impérative « Qui a fait le bras ?»«
Moi, monseigneur, » dit l'anglais.
« Bien, » dit le prince de Cardigan en écoutant le rapport de John Burley. Hommes et chiens, tous devinrent respectueux pour le grand veneur, comme si tous connaissaient également sa dignité suprême. Le prince ordonna la journée, car il en est d'une chasse comme d'une bataille, et le grand veneur de Charles X fut le Napoléon des forêts. Grâce à l'ordre admirable introduit dans la vénerie par le premier veneur, il pouvait s'occuper exclusivement de la stratégie de la haute science. Il sut assigner à l'équipage du prince de Loudon sa place dans l'ordonnance de la journée, en le réservant, comme un corps de cavalerie,
à rabattre le cerf vers l'étang. Si, selon sa pensée, l'émeute royale parvenait à le jeter dans la forêt de la couronne qui borde l'horizon, en face du château. Le grand veneur sut ménager l'amour-propre de ses vieux serviteurs en leur confiant la plus rude besogne, et celui de l'anglais qu'il employait ainsi dans sa spécialité, en lui donnant l'occasion de montrer la puissance des jarrets de ses chiens et de ses chevaux. Les deux systèmes devaient être alors en présence et faire merveille à l'envi l'un de l'autre. « Monseigneur, nous ordonne-t-il d'attendre encore ?» dit respectueusement la Roulie. « Je l'entends bien, mon vieux, répliqua le prince. Il est tard, mais... Ah, voici les dames. Car Jupiter sort des odeurs fétiches, dit le second piqueur en remarquant la manière de flairer de son chien favori. Fétiche, répéta le prince de Londo en souriant. Oh, peut-être veut-il dire fétide, reprit le duc de Rhétoré. Oui, c'est bien cela, car tout ce qui ne sent pas le chenil infecte, au dire de monsieur la Ravine, repartit le grand veneur. En effet, les trois seigneurs virent de loin un escadron composé de 16 chevaux, à la tête duquel brillaient les voiles verts de 4 dames. Modeste, accompagné de son père, du grand écuyer et du petit Labrière, allait en avant aux côtés de la duchesse de Maufrigneuse, que convoyait le vicomte de Sérisy. Puis venait la duchesse de Chaulieu, flanquée de Canalis, à qui elle souriait, sans trace de rancune. En arrivant au rond-point où ces chasseurs, habillés de rouge et armés de leurs corps de chasse, entourés de chiens et de piqueurs, formèrent un spectacle digne des pinceaux d'un Van der Meulen, la duchesse de Chaulieu, qui se tenait admirablement à cheval, malgré son embonpoint, arriva près de Modeste et trouva de sa dignité de ne point bouder cette jeune personne à qui, la veille, elle n'avait pas dit une parole. Au moment où le grand veneur eut fini ses compliments sur une ponctualité fabuleuse, Éléonore daigna remarquer la magnifique pomme de cravache qui scintillait dans la petite main de Modeste, et la lui demanda gracieusement à voir. « C'est ce que je connais de plus beau dans ce genre, » dit-elle en la montrant à Diane de Maufrigneuse. « C'est d'ailleurs en harmonie avec toute la personne, » reprit-elle en la rendant à Modeste. « Avouez, madame la duchesse, » répondit mademoiselle de la Bastille, en jetant à la Bruyère un tendre et malicieux regard où l'amant pouvait lire un aveu, « que de la main d'un futur, c'est un bien singulier présent. » « Mais, dit madame de Maufrigneuse en souvenir de Louis XIV, je le prendrai comme une déclaration de mes droits. » La Bruyère eut des larmes dans les yeux et lâcha la bride de son cheval. Il allait tomber. Mais un second regard de Modeste lui rendit toute sa force en ordonnant de ne pas trahir son bonheur. On se mit en marche. Le duc d'Hérouville dit à voix basse au jeune référendaire « J'espère, monsieur, que vous rendrez votre femme heureuse. Si je puis vous être utile en quelque chose, disposez de moi, car je voudrais pouvoir contribuer au bonheur de deux si charmants êtres. » Cette grande journée où tant d'intérêts de cœur et de fortune furent résolus n'offrit qu'un seul problème au grand veneur, celui de savoir si le cerf traverserait les temps pour venir mourir en haut du boulingrin devant le château. Car les chasseurs de cette force sont comme ces joueurs d'échecs qui prédisent le mat à telle case. Cet heureux vieillard réussit au gré de ses souhaits. Il fit une magnifique chasse et les dames le tinrent quitte de leur présence pour le surlendemain, qui fut un jour de pluie. Les hôtes du duc de Verneuil restèrent 5 jours à Rosembray. Le dernier jour, la Gazette de France contenait l'annonce de la nomination de monsieur le baron de Canalis au grade de commandeur de la Légion d'honneur et au poste de ministre à Karlsruhe, lorsque, dans les premiers jours du mois de décembre, madame la comtesse de la Bastille opéré par Desplein, puis enfin voir Ernest de la Bruyère. Elle serra la main de Modeste et lui dit à l'oreille « Je l'aurais choisi. » Vers la fin du mois de février, tous les contrats d'acquisition furent signés par le bon et excellent Latournelle, le mandataire de M. Mignon en Provence. À cette époque, la famille Labastie obtint du roi l'insigne honneur de sa signature au contrat de mariage et la transmission du titre des armes des Labastie à Ernest de la Bruyère, qui fut autorisé à s'appeler le vicomte de Labastie-la-Bruyère. La terre de Labastie, reconstituée à plus de 100 000 francs de rente, était érigée en majorat par lettre patente que la cour royale enregistra vers la fin du mois d'avril. Les témoins de la Bruyère furent Canalis et le ministre, à qui pendant 5 ans il avait servi de secrétaire particulier. Ceux de la mariée furent le duc d'Hérouville et Desplein, à qui les Mignon gardèrent une longue reconnaissance après lui en avoir donné de magnifiques témoignages. Plus tard, peut-être, reverra-t-on dans le cours de cette longue histoire de nos mœurs monsieur et madame de la Bruyère-Labastie. Les connaisseurs remarqueront alors combien le mariage est doux et facile à porter avec une femme instruite et spirituelle. Car Modeste, qui sut éviter, selon sa promesse, les ridicules du pédantisme, est encore l'orgueil et le bonheur de son mari, comme de sa famille et de tous ceux qui composent sa société. Paris, mars-juillet 1844.